BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business, émission spéciale. Cette semaine, j'ai délaissé nos locaux parisiens et mes petits camarades de CB News pour venir au Brésil, à Salvador de Bahia, sur l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. C'est vrai que la voile, c'est un véritable vecteur de communication pour les marques qui s'affichent sur les coques et sur les voiles des bateaux. Visibilité assurée pendant une course avec une fenêtre médiatique énorme. Mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement cette semaine dans HebdoCom, c'est comment est-ce que les marques se servent finalement de ce sponsoring pour booster leur communication en interne. Comment est-ce que les salariés voient ce genre d'opération? Comment est-ce que le sponsor construit sa relation avec son skipper? Et surtout, concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? On va décrypter tout ça à travers l'exemple de SMA, leader de l'assurance dans le secteur de la construction. Ils ont un bateau engagé sur la Jacques Vabre, skippé par Paul Meillat et Gwenolé Gaïné. On ira à leur rencontre. On sera aussi avec des salariés du groupe et avec la directrice de la communication d'SMA, Annabelle Grandjean. Tout ça, c'est à suivre dans HebdoCom, envoyé spécial au Brésil. Mais d'abord, comme chaque semaine, un détour par l'actu avec Marie Vallogne.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Un losange intergalactique qui ressemble étrangement au Faucon Millenium de Star Wars. Ce losange, c'est le logo de Renault, exceptionnellement transformé à l'occasion d'un partenariat avec Disney, signé pour la sortie des films Star Wars Le Dernier Jedi et Star Wars Story. La publicité est imaginée par Publicis Conseil. Au programme, 8 mois de campagne pub, des expériences 3D et même des hologrammes dans les gares. Le partenariat devrait être déployé dans d'autres pays européens par la suite. Il pourrait s'agir de la plus grande fraude à la pub digitale jamais découverte. Une agence spécialisée a révélé l'existence d'un vaste réseau pirate qui, depuis des mois, a réussi à détourner, grâce à des robots informatiques, des millions de dollars investis dans la pub sur Internet. Parmi les victimes, des médias comme le Wall Street Journal, le FT ou encore CNN. Les explications de Simon Tenenbaum.
C'est une opération de fraude publicitaire, classique dans son mode opératoire, mais d'une ampleur inédite. Pour détourner l'argent de la pub sur Internet, les pirates ont créé plus de 30 000 faux noms de domaine, permettant de se faire passer pour des sites prestigieux comme le Financial Times, le Wall Street Journal ou CNN. Les espaces publicitaires de ces sites frauduleux ont ensuite été mis en vente sur des plateformes d'achat automatisées et des millions de fausses visites générées par des robots informatiques ont permis aux pirates d'empocher le jackpot, plus de 500 000 dollars par jour. De quoi accentuer encore la pression sur le secteur gangréné par la fraude. L'industrie tente justement de répliquer avec l'adoption à grande vitesse d'un nouveau standard censé protéger les sites de l'usurpation de leur nom de domaine.
Une lettre au Père Noël incompréhensible qui finit dans un coin, un cadeau trop volumineux bloqué dans la cheminée, des excuses complètement farfelues inventées par des parents en manque d'idées pour Noël et des enfants qui restent bouche bée. La dernière campagne de Jouet Club met en scène des parents quelque peu désemparés pour mettre en avant ici le drive de Jouet Club, la solution pour avoir ses cadeaux de Noël à temps, des films visibles uniquement sur Internet et réalisés par les agences Very Good Choice et Il est où le coq. Noël toujours, mais dans une publicité pour Audi cette fois-ci. La scène se passe dans un parking, il ne reste qu'une seule place disponible. Résultat, deux voitures s'engagent dans une course-poursuite pour arriver à temps. Audi s'amuse ici de la course pour les cadeaux de Noël, puisque les deux conducteurs se retrouvent ensuite dans un hypermarché devant le même dilemme, un stand où il ne reste qu'un seul jouet. Le film est signé par l'agence Venables Bells and Partners. Un conseil d'amis, c'est la nouvelle web-série d'Engie pour sensibiliser ses clients à l'éco-responsabilité. Les épisodes mettent en scène l'actrice Marie-Lou Berry dans le personnage d'une jeune femme qui veut limiter son impact sur l'environnement. L'occasion ici pour Engie de communiquer avec humour sur les gestes à adopter pour maîtriser sa consommation d'énergie. La web-série est créée par Riot Studio.
Je suis venue à vélo, j'ai mis 3 heures. C'est l'année du changement, mon pote. Je bois plus que des jus verts. Je vomis tous les matins, mais c'est bien.
Et ton déo, tu le fais toi-même aussi?
Départ de la Transat Jacques Vabre dans 5, 4, 3, 2, 1, top départ!
La 13e édition de la Transat Jacques Vabre s'était lancée du Havre le 5 novembre. Objectif, rallier Salvador de Bahia au Brésil. Mission accomplie en 13 jours, 13 heures, 58 minutes et 3 secondes pour Paul Meya et Gwenolé Gaïné, les skippers du bateau SMA qui montent sur la deuxième marche du podium. 13 jours de mer, mais aussi 13 jours d'échange avec les salariés de leur sponsor. Car pour SMA, leader de l'assurance dans le domaine de la construction, ce sponsoring est un véritable projet d'entreprise.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.
Et pour commencer cette émission spéciale, je suis avec Paul Meya, skipper de SMA. Bonjour.
Bonjour.
Alors avant de rentrer plus dans le vif du sujet, de parler de la communication interne et du travail que vous faites avec votre sponsor, bravo pour cette deuxième place en IMOCA. Comment s'est passée cette course ?
Eh ben, super course, c'est vrai qu'on est parti du Havre il y a un peu moins de 15 jours et on est assez fiers et contents avec Guénolé d'avoir fait deuxième de cette transat. Ça a été beaucoup d'efforts et beaucoup de peu de sommeil, mais ouais non, c'était une belle course, on est vraiment fiers.
Bon, tout au long de cette course, je sais que vous avez depuis maintenant 3 ans avec SMA tissé une vraie relation assez forte. Comment ça s'est passé pendant la course ? Comment est-ce que eux vous soutiennent ?
Ben en fait, je pense qu'on travaille autour de deux axes. C'est qu'il y a une communication externe qui est vraiment grand public pour faire connaître la marque SMA. Donc ça, c'est vraiment le rôle des médias. Et puis après, on a aussi une autre partie à bord. On a des contenus, des vidéos qu'on va faire peut-être juste pour les collaborateurs
SMA. Exclusivement
pour eux. Par exemple, il y avait un déménagement avec un nouveau siège social et on leur a fait une petite vidéo où on montrait que nous aussi on déménageait nos affaires. C'est voilà, c'est pour leur montrer qu'on fait aussi un petit peu partie de la boîte comme eux, et c'est leur bateau. On embarque tout le monde sur ce bateau sur toutes les courses. Et voilà, on reçoit beaucoup de messages, donc c'est sympa, et on essaie de leur faire vivre la course de l'intérieur.
Ça vous motive aussi ?
Bah ouais, ça nous motive, ça donne un peu de sens aussi à ce qu'on fait. Je pense qu'on la voile, c'est assez compliqué. On part d'un port, on arrive à un autre pendant 15 jours, on croise personne, on n'est pas dans un stade avec des supporters qui nous encouragent. Et de les croiser avant les départs, de leur faire visiter le bateau, de recevoir des petits messages, ça nous touche, ça nous donne de l'énergie quand on a des moments un peu plus durs.
C'est vrai que je le disais, vous avez bâti cette relation depuis 3 ans maintenant avec le groupe SMA. Je crois savoir que vous êtes rendu sur les 80 sites du groupe et que vous avez rencontré les 3000 salariés, c'est vrai ?
Ouais, c'est vrai. Quand on y repense, c'est vrai que ça fait 3 ans, on va dire une vingtaine de sites par an. Et puis à chaque fois, un accueil. C'est assez sympa d'aller sur les sites, de les voir sur leur lieu de travail, parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu eux qui sont assez fiers de nous montrer, de leur faire visiter les bureaux, on signe des petits posters pour mettre un peu de couleur dans les bureaux. Et à chaque fois, c'est super, on échange sur plein de choses. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, le projet, il démarre un peu quand je les rejoins sur place. Et on tisse des relations qui sont un peu plus fortes à chaque fois après chaque passage.
Justement, sur les 3000, j'imagine que vous n'avez pas 3000 passionnés de voile chez SMA. Comment est-ce que vous arrivez à trouver finalement des sujets d'intérêt commun, des regroupements? Vous arrivez à faire des parallèles peut-être entre vos métiers? Comment ça se passe?
Souvent, en fait, on part sur une présentation où je parle un petit peu pendant on va dire une demi-heure, où on explique un petit peu le projet, comment il est construit, l'équipe qui travaille sur le bateau, pour vraiment faire un parallèle avec le métier, le travail d'équipe. Même si c'est un projet où je navigue seul ou en double, il y a toute une équipe derrière qui travaille, donc on essaie de montrer de comment on construit le bateau, les chantiers, les différentes phases. Et puis après, c'est des phases de questions-réponses avec beaucoup d'échanges. Et c'est vrai qu'en fonction des affinités des gens, on va aller sur des gens qui sont plutôt des profils techniciens, d'autres qui sont plus intéressés par l'aventure, d'autres plutôt par l'environnement, la vie à bord, comment on passe du temps avec moins de sommeil, une alimentation différente. Et puis il y en a, c'est vraiment la compétition pure. On sent qu'il y en a, ils sont coureurs à pied et ils font des parallèles entre l'effort sur un marathon et puis l'effort qu'on peut faire en voile sur la préparation physique. Plein de choses en fait différentes qui fait qu'au final, on a toujours à trouver un lien commun pour ouvrir les discussions. Ouais.
Et vous les retrouvez aussi à bord parfois, vous leur faire visiter votre bateau, ils vous accompagnent sur les départs, comment ça se passe ?
Ouais, en fait, tout au long de l'année, il y a des collaborateurs qui viennent faire des navigations, quelques-uns, les privilégiés, ça peut arriver. On fait des visites de bateaux au quai. Là, c'est souvent très intéressant parce que les gens se rendent pas forcément compte de ce qu'est un IMOCA. C'est-à-dire qu'IMOCA, c'est le bateau du Vendée Globe, hein, qui font les courses, 18 mètres. Et on pense qu'à l'intérieur, il y a une cabine, il y a un lit. Et quand ils arrivent et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de confort, qu'on mange de la poudre dans laquelle on rajoute de l'eau et qu'on ne dort pas beaucoup. Et là, c'est vrai que c'est un petit choc à chaque fois. Et on se rend bien compte dans leur tête qu'ils rentrent dans un monde un peu inconnu. Et il y a une fascination quand même par rapport à ce manque de confort. Je crois que c'est vraiment ce qui marque le plus les gens à chaque fois.
Et justement, il y a plusieurs dizaines même de salariés qui sont venus vous voir à votre départ du Havre. On a recueilli leurs déclarations. Je vous propose de les regarder.
Je trouve ça très bien que SMA puisse comme ça supporter des sportifs, parce qu'il y a aussi un esprit d'endurance, un esprit de compétitivité qui permet aussi d'emmener toute la SMA pour ensemble aller plus loin en fait.
Je pense que c'est un bon vecteur pour l'image du groupe. Ça permet de toucher effectivement un grand public.
La voix inspire mon métier sur la prise de risque, sur la gestion des risques, sur les challenges qui sont relevés, les défis à faire relever au quotidien et comment on crée des choses nouvelles en faisant le tour du monde, en allant explorer d'autres univers. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça montre quand même l'ouverture de SMA sur d'autres activités, sur le monde qui l'entoure. Et puis, c'est un très très bon outil de communication interne, de fédération des équipes.
C'est un vecteur de communication qui est très très important. Et puis, de pouvoir aborder la course au large, ça véhicule toujours des sentiments et un enthousiasme, un engouement qui pour moi est très porteur justement de valeurs.
C'est une fierté d'avoir son entreprise qui participe à toutes ces courses-là. Hein.
C'est un peu devenu notre bateau, je pense.
Donc on vient de l'entendre, cette dame dit c'est un peu notre bateau finalement. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça?
Bah c'est super parce qu'en fait c'est l'objectif de ce projet, hein, c'est que les collaborateurs s'approprient le bateau puisque le bateau il y a marqué SMA dessus, c'est ni le mien ni celui de quelqu'un d'autre et c'est le bateau du groupe et donc qui s'approprie, je trouve ça super, ça donne un sentiment de fierté pour eux et de fierté pour moi de courir un petit peu pour eux, pour leur couleur et donc c'est super, donc je trouve ça vraiment bien qu'on arrive à faire sentir, à faire ressortir on va dire ce sentiment chez les gens, c'est vraiment le but recherché.
Vous êtes plus skipper ou finalement ambassadeur de la marque SMA?
Ben, je crois que c'est ça, le but c'est d'être de grâce à SMA je peux faire mon métier de skipper professionnel et c'est une partie importante de ce métier de marin, de promouvoir en fait cette marque qui au final est le pilier de cette aventure. C'est pas mon projet, c'est le projet d'SMA, d'une entreprise, et donc c'est un mix entre ambassadeur et skipper.
Vous pensez que vous faites partie de l'entreprise aujourd'hui quelque part?
C'est marrant parce que cette phrase, il y a des salariés qui m'avaient dit quand j'étais venu assez tôt, hein, d'ailleurs dans la première année, les rencontrer sur leur lieu de travail, ils m'avaient dit c'est marrant quand vous parlez on a l'impression que vous faites partie de la maison, et ça m'avait touché, j'étais super content et justement fier, et je pense que c'est oui parce qu'au final je fais un peu le même travail qu'eux, on travaille pour SMA.
Il n'y a pas un moment où justement ça peut impacter votre travail de skipper, votre préparation d'aller comme ça à droite, à gauche sur les sites, faire tout ce que vous faites en tant qu'ambassadeur vraiment de la marque?
Eh ben je crois que c'est là où une équipe professionnelle doit être structurée et aussi SMA qui a des objectifs. Il faut être très clair sur ses objectifs, c'est-à-dire qu'SMA a choisi de communiquer autour d'un projet voile pour augmenter sa notoriété et travailler sur la dynamique en interne. Mais le pilier de tout ça, c'est la performance. On est sur un projet qui se veut performant avec des résultats. Donc le plus important, c'est ma préparation, c'est de faire des courses avec un bon résultat. Et donc à chaque fois, l'aspect communication, il passe pas en second, mais il doit jamais impacter le travail, l'entraînement et la réussite sportive.
L'équilibre, il doit être un peu subtil, non, parfois?
Je crois que j'ai la chance d'avoir une équipe justement qui est assez forte, bien organisée et en avant des courses. C'est vrai qu'on a un programme chargé au niveau communication, mais voilà, on essaie de jouer sur le film et je crois que jusqu'à maintenant l'équilibre a plutôt été bien trouvé avec ma préparation sportive et tout en assurant quand même le job pour SMA d'ambassadeur et aussi de communicant.
Alors maintenant que vous êtes arrivé, vous allez aller de nouveau raconter votre histoire, votre aventure de la Transat aux salariés?
Je crois qu'on va repartir sur une nouvelle tournée. Et ce qui est super, c'est que au début des tournées, j'avais des choses à raconter, mais voilà, c'est un projet qui se construisait. Et puis c'est toujours plus facile d'aller raconter quelque chose qu'on a vécu, une histoire. Le Vendée Globe, c'était difficile, mais là, de raconter une super deuxième place sur une Transat Jacques Vabre, ça va être du plaisir. Et j'ai déjà hâte d'y aller. Ouais.
Merci beaucoup, Paul Meillat. Je rappelle que vous êtes le skipper de SMA. À vous entendre, on a l'impression que vraiment les marques trouvent leur intérêt dans le sponsoring de la voile. On va voir comment ça se passe aussi chez les autres avec Fabien Chamblant tout de suite.
La voile, c'est bon pour la com interne. C'est la leçon que semblent retenir toutes les marques qui ont, à un moment ou à un autre, fait le choix de sponsoriser un bateau sur une grande course au large, telle que la Transat Jacques Vabre, le Vendée Globe ou la Route du Rhum. Certains y sont même venus justement pour des raisons de com interne. C'est le cas de Safran, sponsor jusqu'en juin dernier, qui avait lancé son projet de voile en 2005, peu après la fusion entre la Snecma et la Sagem. À l'époque, l'idée n'était pas tant de faire connaître Safran, la nouvelle marque, que d'inciter les salariés des deux entreprises à travailler ensemble au sein de la nouvelle entité. La voile semble en effet être l'outil parfait pour fédérer les équipes. En 2014, par exemple, ce sont plusieurs centaines de salariés de Sodebo qui avaient fait le déplacement au Sable d'Olonne pour le baptême du maxi trimaran de leur skipper Thomas Coville. Autre exemple, à l'occasion du dernier Vendée Globe, des salariés de la Micaline se sont relayés bénévolement pour tenir le stand de leur écurie sur le village du départ. À la biscuiterie Saint-Michel, toujours pendant le Vendée Globe, les salariés du groupe étaient invités, eux, à jouer en ligne sur Virtual Regatta pour tenter de faire aussi bien que leur skipper Jean-Pierre Dick. C'est parfois un tel succès en interne que le sponsor a ensuite bien du mal à mettre fin à son engagement. Akena Véranda, qui avait voulu arrêter son programme voile en 2008, avait finalement décidé de rempiler pour 5 années supplémentaires sous la pression du comité d'entreprise, enthousiasmé par les précédentes aventures. Avec de telles retombées positives en interne comme en externe, la voile est un support plébiscité par les marques qui font très attention à la personnalité des skippers qu'elles recrutent. Le projet de sponsoring se construit désormais à l'inverse de ce que l'on pouvait voir il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le skipper qui cherche un sponsor, mais bel et bien la marque qui cherche un ambassadeur pour porter ses valeurs.
Et je me trouve maintenant avec Annabelle Grandjean, directrice de la communication du groupe SMA. Bonjour Annabelle.
Bonjour Aurélie.
Alors il y a 15 jours, vous étiez venue déjà nous parler de toutes ces actions que vous avez mises en place en interne autour de ce sponsoring, action de communication auprès de tous vos collaborateurs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce sponsoring, c'est devenu un véritable projet d'entreprise ?
Effectivement, on a démarré il y a 4 ans en Figaro, puis il y a 3 ans, on est passé en IMOCA, toujours avec Paul. Et tout au long de ces 3 années, on a construit ensemble, avec les collaborateurs, un vrai projet d'entreprise.
Alors justement, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Didier Ridoret, c'est le président de SMA BTP. Il était au port du Havre pour le départ de la Transat.
C'est le constat que nous en faisons, un dynamisme au sein de l'entreprise, évidemment, un intérêt de la part non seulement des clients, mais aussi de l'ensemble du personnel du groupe SMA, la SMA BTP, la SMA Vie, la SMA Courtage. Bref, toutes les composantes du groupe sont mobilisées autour du bateau, s'intéressent à ses résultats, se motivent, communiquent leur dynamisme et leur, leur excitation en quelque sorte à leurs clients, aux collaborateurs qu'ils peuvent rencontrer. Donc tout ça, ça crée effectivement, un bouillonnement, un foisonnement positif qui pousse l'entreprise vers l'avant. Ça crée de la dynamique, ça crée de l'envie, ça crée de l'enthousiasme. Vous avez besoin d'appuyer une politique de développement sur de la communication, à ce moment-là, vous construisez une politique de communication, c'est ce qu'on a fait depuis 3 ans maintenant avec le bateau. Donc voilà, on s'inscrit dans cette dynamique. Et le groupe SMA a besoin de se développer et c'est ce qu'on essaie de faire. Et je pense qu'on a réussi plutôt assez bien.
Alors on comprend évidemment l'enjeu hein, en termes de communication externe, ça paraît assez évident. Mais en termes de communication interne, quand est-ce que vous avez décidé finalement de saisir cette opportunité pour en faire quelque chose de très fort ?
Dès le début du programme, on a souhaité vraiment que le programme repose sur 3 piliers, les relations presse, les relations publiques, qui sont des piliers plutôt externes, et la communication interne, qui était un vrai pilier à part entière. Et donc, dès le démarrage, on a axé notre politique vers les collaborateurs en produisant des contenus spécifiques et en organisant des rencontres, en organisant des moments de partage entre les collaborateurs et Paul.
Finalement, la voile, ça permet une communication à 360 degrés presque.
Oui, complètement. On est dans un schéma de communication à 360 degrés.
Alors, on l'a vu tout à l'heure, on les a entendus, hein, vos salariés qui étaient au départ sur le port du Havre. On a vu aussi que Paul Meillat était très impliqué, votre skipper. Justement, comment est-ce que vous, en interne, vous servez de tout ça ?
Alors, du coup, ça nous donne un certain nombre d'outils qui nous permettent de communiquer vers les collaborateurs, de communiquer nos valeurs, de communiquer un projet qui renforce l'adhésion, qui renforce la fierté d'appartenance chez nos collaborateurs.
Parce qu'il y a un parallèle qu'on peut faire entre le métier d'assureur et la voile, par exemple.
Il y a un parallèle que l'on fait souvent, qui est la gestion, la maîtrise du risque, qui est aujourd'hui le quotidien de Paul quand il est en course. Son métier, effectivement, c'est d'appréhender les risques et de les gérer au mieux, et qui est un parallèle avec notre métier d'assureur, le métier de la gestion du risque.
Est-ce que ça vous aide, par exemple, à expliquer votre métier davantage ?
Oui, clairement, ça nous aide à expliquer notre métier davantage. Et d'ailleurs, c'est des éléments que Paul explique souvent quand on lui pose la question. Quand des clients ou des collaborateurs viennent le voir, par exemple, sur le bateau, Paul lui-même se saisit de cet outil-là pour expliquer en quoi il y a un vrai parallèle entre notre métier et le sien.
Alors du coup, en interne, quelles sont les actions, peut-être vous pouvez nous les rappeler, que vous avez mis en place là pendant cette transat ?
Alors, pendant cette transat, on a énormément communiqué vers les collaborateurs avec des supports qui n'étaient pas destinés à l'externe. Donc, des supports qui ont été faits spécifiquement pour les collaborateurs. Et notamment, lundi dernier, nous avons emménagé dans notre nouveau siège et Paul a enregistré enregistré une vacation radio spécifique pour les collaborateurs pour leur souhaiter bon courage pour notre emménagement.
Ça permet de créer une relation, j'imagine, très particulière et très privilégiée aussi.
Oui, je pense que Paul a su nouer avec les collaborateurs. Et les collaborateurs aussi ont su nouer avec Paul une relation très privilégiée tout au long de ces 4 années.
Quel est le secret pour vous d'une communication interne bien réussie ?
Je ne sais pas s'il y a de secret, mais je pense qu'il faut vraiment multiplier les occasions de rencontre et y passer du temps, y consacrer du temps, avoir un vrai programme qui donne une matière spécifique pour les collaborateurs. Donc travailler vraiment de façon très renforcée sur l'interne.
Et faire que ce soit des choses concrètes aussi ?
Faire que ça soit des choses concrètes. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur les moments de rencontre et les relations publiques en interne. Et Paul a vraiment été à la rencontre de tous nos collaborateurs, encore une
fois. Pourquoi c'est important à ce point aujourd'hui la communication interne ?
C'est important. Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est important. Mais c'est vrai que la fierté d'appartenance, ça nous permet de travailler la fierté d'appartenance. Et donc ça, c'est très important. Ça nous permet aussi de travailler des axes comme la marque employeur.
Donc
ça permet de travailler exactement, ça nous permet de travailler l'attractivité du groupe.
Ouais.
Et donc tout ça fait que on a un ensemble de facteurs très positifs pour le groupe et ses collaborateurs.
Et renforcer l'attractivité du groupe aujourd'hui, c'est important, surtout peut-être quand on n'est pas une marque connue du grand public.
Bah exactement, ça nous emmène vers plus de notoriété, une marque employeur plus attractive, et du coup ça nous permet, j'imagine, à terme d'avoir plus de recrutement.
C'est quoi le plus important aujourd'hui ? C'est la communication interne ou la communication externe ?
Alors, en fait, aujourd'hui, la communication interne et la communication externe sont des piliers d'égale importance. Pour nous, il y a une réelle porosité entre l'interne et l'externe. Et donc, on les travaille de la même manière, avec la même puissance et les mêmes ambitions.
Ce partenariat avec Paul Meillat, vous l'avez pour encore un petit bout de temps, on va dire, une grosse année ?
Oui. Exactement.
Quelles vont être les prochaines étapes alors ?
Alors, on a quelques courses au printemps prochain. Puis ensuite, on a une grande course l'année prochaine, la Route du Rhum, qui partira au mois de novembre de Saint-Malo.
Alors là aussi, avec, j'imagine, beaucoup d'actions de la part à la fois du skipper et de vos collaborateurs, comment ça va se mettre en place ? Parce que je sais que vous aimez bien varier en fonction des courses, faire des petites choses un peu nouvelles.
Exactement, on essaye de ne pas faire la même chose tous les ans. Et donc là, on est en train de construire le programme de l'année prochaine, et spécifiquement le programme de la Route du Rhum. Et on est en train de réfléchir à un jeu concours pour faire gagner des navigations avec Paul à nos collaborateurs.
Est-ce que le fait d'impliquer à ce point vos collaborateurs, ça vous permet aussi d'en faire finalement des moyens de communication externe, aussi des vecteurs de communication externe.
Oui, complètement. Et c'est en ça que je vous parlais de porosité. Il y a parfois des supports que l'on crée pour les collaborateurs et qui finissent par être utilisés en externe ou sur les médias sociaux.
Merci beaucoup Annabelle Grandjean. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication du groupe SM1.
Merci Aurélie.
Hebdocom au Brésil, c'est terminé. Merci aux équipes d'SMA de nous avoir accueillis ici à Salvador de Bahia et à Marie Vallone qui a réalisé cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro. On sera de retour à Paris et je retrouverai Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News. À très vite pour un nouveau numéro d'Hebdocom sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdocom sur BFM Business.